le message de ce matin, ça sera la suite de celui que nous avons déjà partagé sur la naissance d'en haut. Et j'aimerais rappeler rapidement ce que nous avons dit lors de la première partie. Nous avons rappelé que lorsque l'on est sauvé, on devient une nouvelle créature. Et parce qu'en fait, on acquiert une nouvelle naissance. Et cette naissance, elle est d'en haut parce que c'est une naissance de Dieu, dit la Bible. On est vraiment de Dieu. Et Jésus dit que c'est un impératif, la naissance d'en haut. Ce n'est pas une option, c'est un impératif pour pouvoir accéder au ciel et pour pouvoir y vivre. Il faut absolument naître d'en haut. Et cette transformation, elle est réalisée par le Saint-Esprit lui-même. C'est carrément un miracle que Dieu accomplit dans la personne qui naît d'en haut. Il se trouve que parfois, on ne trouve pas cette transformation chez certaines personnes que nous avons qualifiées de faux disciples, c'est-à-dire qu'ils se disent disciples, mais chez qui on ne voit pas du tout de transformation, cette transformation qui vient d'en haut. Et on a évoqué deux raisons qui font qu'on ne trouve pas cette transformation chez certaines personnes. C'est soit parce que les personnes ne sont pas disposées à faire la démarche nécessaire pour naître d'en haut, ou tout simplement parce que les personnes ignorent cette nécessité. C'est-à-dire que ce processus de transformation, certains ne savent même pas que cela est nécessaire et que cela... Pourquoi ? Parce que soit ils n'ont pas été enseignés là-dessus, tout simplement, ou parce que le message qu'ils ont entendu n'a pas été assez clair, ou on n'a pas assez insisté sur le sujet, sur cette nécessité de naître d'en haut. D'où la responsabilité des enseignants sur ce sujet. Parce que Jésus dit que c'est un impératif. Sans cela, on ne peut pas entrer dans le royaume. Et donc, ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est justement cette démarche. La démarche qu'il faut faire pour naître d'en haut. Certains la connaissent déjà, mais on va la rappeler. Et puis pour ceux qui ne la connaissent pas, on va vraiment expliquer en détail en quoi cela consiste. C'est-à-dire, comment fait-on pour naître d'en haut? Que dois-je faire pour naître d'en haut? Pour répondre à la question, j'aimerais d'abord vous poser une autre question. À savoir, à votre avis, si on voulait résumer la Bible en un seul mot, en quel mot la résumeriez-vous? Est-ce que vous avez une idée? Si on voulait résumer la Bible en un seul mot.
Amour.
Grâce.
Sacrifice.
Dieu.
Parole.
Parole nouvelle. Un seul mot. Parole.
Pardon.
Miséricorde.
Testament.
L'éternité. Alors, j'aimerais que nous essayions de trouver ensemble un mot. Tout ce que vous avez dit est vrai, hein, l'amour, Dieu. Mais j'aimerais vous amener à un autre mot, en reparcourant un peu la Bible, pour voir s'il y a quelque chose qui revient souvent dans la Bible. Souvent, Dieu a invité son peuple Israël à quelque chose.
La repentance.
Nous allons voir quelques textes. Tous les prophètes vont parler de la même chose. Nous allons juste prendre quelques exemples. En commençant par le prophète Jérémie. Et j'aimerais vous lire dans son livre au chapitre 3, les versets 12 à 14. Et donc Dieu envoie Jérémie et lui dit, « Va, crie ces paroles vers le septentrion et dis, reviens, infidèle Israël, dit l'Éternel. Je ne jetterai pas sur vous un regard sévère, car je suis miséricordieux, dit l'Éternel, et je ne garde pas ma colère à toujours. Reconnais seulement ton iniquité, reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel, ton Dieu, que tu as dirigé çà et là tes pas vers les dieux étrangers, sous tout arbre vert, et que tu n'as pas écouté ma voix, dit l'Éternel. Revenez, enfants rebelles, dit l'Éternel, car je suis votre maître, je vous prendrai, un d'une ville, deux d'une famille, et je vous ramènerai dans Sion. Ça, c'est ce que dit le prophète Jérémie au peuple d'Israël. On va prendre un autre exemple. C'est le prophète Joël. Joël, chapitre 2, verset 12. Où Dieu dit, « Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. » Donc, vous allez voir, tous les prophètes ont le même message pour Israël. Reviens. Mais pour d'autres peuples aussi, Dieu a dit la même chose. Le prophète Jonas a été envoyé à Ninive, aux Ninivites, pour prêcher quoi ? On va lire juste quelques passages du chapitre 3, verset 5 et verset 10, pour aller vite. Mais après, vous pourrez revoir tout le contexte. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces termes, en ces mots. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. » Et Jonas se leva et alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. Donc on a vu que Dieu envoie son prophète à Israël, d'abord, abondamment, à d'autres peuples comme Ninive. Mais en fait, le message, il est pour tous les peuples, il est pour tous les hommes. Nous allons prendre le prophète Ésaïe, qui s'adresse en fait à tous les hommes. Au chapitre 55, versets 6 et 7, Dieu dit que le méchant abandonne sa voie. L'homme d'iniquité s'est pensé qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. C'est un message qui est envoyé à tous les hommes. D'abord à Israël, à d'autres peuples et à tous les hommes. Dieu dit, reviens. Et on a le même appel en fait. Quand dans les textes que nous venons de voir, on voit toujours le même message. Reviens, infidèle Israël. Reconnais seulement ton iniquité. Reconnais que tu as été infidèle. C'est des choses qu'on a lues. Revenez enfin rebelles. Revenez à moi de tout votre cœur. Ils revenaient de leur mauvaise voie. Que le méchant abandonne sa voie. Qu'il retourne à l'Éternel. Donc on a toujours la même chose. Et on va voir que le dernier prophète avant Jésus que vous connaissez, juste avant Jésus, va annoncer le même message, va donner le même appel. Matthieu chapitre 3, versets 1 et 2. « En ce temps-là parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Toujours le même message. Et Jésus lui-même, dès qu'il va commencer son ministère, il va commencer par le même message. Marc chapitre 1, verset 15, Jésus disait, « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. » Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Donc, on voit que c'est toujours le même message. Avant Jésus, c'est le même message. Jésus arrive, même message, et ses disciples après lui. Et quand Jésus va envoyer pour la première fois ses apôtres en mission, Marc chapitre 6, j'aimerais vous lire les versets 7 et 12. Qu'est-ce qu'il leur dit ? Alors, il appela les 12 et il commença à les envoyer deux à deux en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Ils partirent et ils prêchèrent la repentance. Toujours le même message. Et après, quand Jésus sera parti, quand l'Église va recevoir le Saint-Esprit le jour de Pentecôte, le premier message prêché par l'apôtre Pierre, Actes chapitre 2, verset 38, Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Et la mission des apôtres après, quand l'Église va commencer à se répandre, tout ce qui va se passer. Premier miracle fait par Pierre et Jean. Et quand ils font le miracle, les gens sont émerveillés. Et le message que prêche Pierre tout de suite, Actes chapitre 3, verset 19, qu'est-ce qu'il dit ? Il commence par « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient pardonnés. » Et l'apôtre Paul, qui est l'évangéliste que nous connaissons avec un tel zèle, son message, ça sera toujours la même chose, l'apôtre Paul. Actes chapitre 26, verset 20, on parle de l'apôtre Paul, à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, Paul dit « J'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. » C'est toujours le même mot qui revient, toujours le même mot. Et finalement, si nous voulions résumer la Bible en un mot, ce que Dieu le message que Dieu apporte aux hommes dans la Bible avant tout, c'est la repentance, c'est revenir. On est parti sur une mauvaise voie et Dieu dit, du début jusqu'à la fin, jusqu'au livre de l'Apocalypse, on retrouve le même message, revenez, repentez-vous. C'est la repentance qui est le mot capital dans la Bible. Si on voulait résumer la Bible, ce mot serait bien approprié. Et d'ailleurs, ce message, j'aurais pu l'intituler « Repentance ». Ce serait le titre, « Repentance ». Et c'est vraiment le cœur de la prédication de Jésus et de ses apôtres. Parce que, justement, ce n'est pas une option. La repentance n'est pas une option. C'est un ordre divin que Dieu donne, adresse à tous les hommes. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce dès maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice. Actes chapitre 17, versets 30 et 31. L'importance de la repentance est hélas parfois trop négligée dans la prédication de l'évangile aujourd'hui. Aujourd'hui, certains prédicateurs invitent les non-convertis à accepter Christ et à croire en lui, sans leur avoir montré auparavant qu'ils étaient pécheurs, perdus et condamnés à mort, et qu'ils devaient impérativement se repentir. On oublie de le faire. C'est ainsi que de nos jours, nous trouvons dans les églises de nombreuses personnes croyant en Jésus et en son sacrifice, mais dont la vie n'a absolument pas changé. Pourquoi en est-il ainsi? En fait, cela révèle que ces personnes ne sont pas passées par la vraie repentance. C'est pour ça qu'il n'y a pas de transformation. Si je ne passe pas par la repentance, il n'y a pas de transformation. Une telle foi, cette foi juste de croire en Jésus et en son sacrifice, une telle foi ne peut les sauver. Car elle ne remplit pas les conditions bibliques exigées par Jésus et enseignées par ses apôtres. C'est la repentance qui produit ce changement radical que l'on trouve chez les personnes, qu'on trouve dans la vie d'une personne qui croit vraiment. C'est la repentance qui va produire le changement radical. Aujourd'hui, on assiste à ce que j'appellerais une théologie libérale. C'est-à-dire qu'on essaie d'adapter la parole de Dieu à la société, à l'époque, et on fait des faux raisonnements. L'apôtre Jacques nous avait prévenu, Jacques chapitre 1, verset 22, « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » On fait des faux raisonnements avec la parole de Dieu en disant il suffit d'avoir un peu de religion pour être sauvé. Parce que Dieu est bon. C'est ce qu'on entend dans cette prédication de l'évangile. Dieu est bon, c'est la grâce. On n'entend que cela. Et donc, avec un petit peu de religion, ça y est, c'est bon. Parce que c'est la grâce. Mais il y a des gens qui disent, oui, mais je me suis repenti, mais j'ai quand même pas expérimenté ce changement dans ma vie. Je dirais simplement que la repentance n'était pas vraie. Si elle est vraie, il y a forcément un changement. On est d'en haut, forcément, à ce moment-là. Parce que certains considèrent que la repentance est une simple demande de pardon. Je vais à Dieu, je dis, pardonne-moi mes péchés, et je me suis repenti. Mais la Bible nous dit, Proverbes chapitre 28, verset 13, « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Ce que les gens oublient, c'est la deuxième partie, « et les délaisse ». La repentance, ce n'est pas simplement d'aller avouer ses péchés à Dieu, en disant « j'ai péché, Seigneur, pardonne-moi ». Il faut prendre une décision de vouloir délaisser les péchés. C'est la deuxième partie. Parce que la repentance comprend en fait deux parties importantes. Il y a effectivement la demande de pardon par rapport au péché commis, mais c'est une toute petite partie de la repentance. La partie capitale, c'est la décision de ne plus pécher. C'est ça la repentance véritable. Et cette décision de ne plus pécher en se soumettant entièrement à Dieu. C'est ça la vraie repentance. Cette deuxième partie, qui est de loin la plus importante, est souvent négligé, oublié ou n'est pas réalisé. Donc après, on se dit, oui, mais je me suis repenti, mais je n'ai pas eu ce changement. Parce que je n'ai pas fait cette deuxième partie. C'est la décision de dire, voilà, maintenant, j'abandonne ma vie à Dieu, je me soumets entièrement à lui et je ne veux plus pécher. Il peut même y avoir des pleurs. Hein. On peut, en écoutant une prédication, un prédicateur éloquent, on peut pleurer, on peut être touché dans, dans son émotion et pleurer sans vraiment se repentir. Pleurer ne veut pas dire se repentir. On peut être juste être touché émotionnellement. Et c'est-à-dire que la repentance, c'est plus qu'un vague sentiment émotionnel. C'est beaucoup plus que ça. Une simple tristesse qui vous fait pleurer, mais qui ne vous conduit pas à vouloir changer de vie, n'est pas la vraie repentance. La vraie repentance qui est exprimée en fait par un mot grec, le mot originel c'est « métanoïa », c'est un retour en arrière. C'est vraiment, ça équivaut à un changement complet. Un changement complet de mentalité. C'est ça. On retourne sa tête, enfin sa pensée complètement. C'est ça la repentance. Celui qui se repent vraiment, c'est celui qui se prosterne vraiment devant Dieu. Qui reconnaît, en reconnaissant comme Ésaïe, enfin comme Ésaïe, le prophète Ésaïe. On reconnaît à ce moment-là que sa conduite elle est mauvaise devant Dieu. Il faut vraiment, cette personne va s'écrier comme Ésaïe, s'écrier « Malheur à moi ». Ésaïe a dit dans Ésaïe 6, 5, « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. » En fait, aujourd'hui, quand je me repense, moi aussi, je crie, je suis un homme impur, un misérable pécheur, il faut que je le reconnaisse. La repentance passe par là. Voilà la vraie repentance que le Saint-Esprit produit dans la vie d'une personne dont la parole de Dieu a touché le cœur. Cette repentance-là nous amène à nous prosterner devant Dieu en reconnaissant que nous sommes de vils pécheurs. Et donc cette vraie repentance va toujours entraîner l'horreur et l'abandon du péché. La détermination d'aimer, d'obéir et de servir Dieu. La repentance produit forcément cela. La repentance, c'est réaliser le désordre moral dans lequel nous sommes par nature. Notre nature, elle est comme ça au départ. Et donc, c'est le reconnaître que nous sommes dans un désordre moral vis-à-vis de Dieu. C'est un réveil de la conscience. L'acte de se détourner du mal pour se tourner vers Dieu. J'étais vers le mal et je me retourne dans l'autre sens pour se tourner vers Dieu. C'est ça la repentance. La personne qui se repent vraiment, c'est celle qui éprouve avant tout une profonde douleur d'avoir offensé et déshonoré Dieu dans sa vie. Parce que pécher, c'est désobéir, c'est offenser et déshonorer Dieu. Il faut bien le comprendre. Et nous voyons que dans la Bible, ceux qui ont vraiment compris ça, quand ils s'expriment, on comprend ce qu'ils ont compris de la repentance ou du péché. On va prendre l'exemple de Joseph. Joseph en Égypte, qui va être tenté par la femme de son maître. Genèse chapitre 39, j'aimerais vous relire rapidement ce court passage de son histoire, chapitre 39 de Genèse, les versets 7 à 9. On nous raconte ceci, après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit excepté toi parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu ? Il ne dit pas « je pécherai contre mon maître, je pécherai contre Dieu ». C'est-à-dire qu'en fait, il a compris que le péché, c'est d'abord contre Dieu. C'est Dieu qu'on offense. Quand on touche à une créature de Dieu, on touche à Dieu. Et ça, il a compris. Et on avait vu ensemble le crime, l'histoire de David, le roi David qui a commis un crime abominable, une série de crimes, on dirait. Il a commis l'adultère, le viol, le meurtre, la dissimulation, on avait vu ça ensemble, et pourtant il a été pardonné par Dieu, parce qu'il s'est repenti. Et hanté par le regret de son terrible péché, il reconnaît qu'il a avant tout péché contre Dieu. Dans le psaume 51, ce psaume qu'il a composé juste après que le prophète lui a dit son crime, Nous pouvons lire ceci au verset 5 et 6. « Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. » Donc quand il confesse à Dieu, « J'ai péché contre toi. J'ai fait tuer Uri. J'ai violé sa femme. Mais c'est contre toi que j'ai péché. » La repentance, ça fait comprendre cela. Si j'ai compris ça, là je me repens. Que c'est Dieu que j'ai offensé avant tout. Et la vraie repentance va se manifester par certaines choses. Par une confession sincère de ses péchés à Dieu, qui est le premier offensé et le premier déshonoré. Donc je commence d'abord par ça. La repentance se manifeste aussi par une profonde tristesse à cause de mon péché et de ma culpabilité devant Dieu. Le dégoût et l'abandon du péché. Et une rupture totale et définitive de mes mauvaises habitudes, mes idoles, mes passions cachées. La repentance va m'amener à passer par là, enfin, va se manifester par cela. Par un changement radical de la vie, hein, afin de pratiquer les œuvres dignes de la repentance dont parle l'apôtre Paul. La repentance se manifeste aussi par la confession à qui j'ai causé le tort. Enfin, tout à fait, bien sûr, si j'ai causé un tort à quelqu'un, il faut que j'aille vers la personne pour lui demander pardon. Je dois lui confesser le péché à la personne. Et je dois aussi réparer ce que j'ai fait dans la mesure du possible. Quand c'est possible, si je me repens vraiment, je répare ce que j'ai fait. Et enfin, la repentance se manifeste par l'obéissance absolue à la parole de Dieu. Après le passage par la repentance, on va voir des choses concrètes dans nos vies qui vont changer. Des choses que je n'arrive plus à faire. Ou si je l'ai fait, je me sens mal. Des choses qui ne deviennent plus, qui vont devenir pour moi, même si je chute, c'est que je ne vais plus avoir allègrement les mêmes habitudes. Je ne vais plus passer mon temps à téléphoner au volant, parce que c'est interdit par la loi. Et je ne vais plus passer mon temps à dépasser allègrement les vitesses limitées par la loi, parce que c'est interdit par la loi. Ça peut m'arriver de chuter, mais dans ma nature, je refuse maintenant de le faire. Parce que je suis passé par la repentance. Et à chaque fois que je le fais, je me sens mal, je souffre, parce que le Saint-Esprit en moi me dit, mon enfant, c'est pas bon. Mais si je ne souffre pas, il y a un problème. C'est que l'Esprit n'est pas là. Voilà. La repentance, ça va se manifester vraiment par des choses concrètes dans ma vie de tous les jours. Parce que c'est un changement radical de vie. Et, bien entendu, cela ne garantit pas que plus jamais je ne commettrai de péché lorsque je me suis repenti et que je suis né d'en haut. Mais si je pêche, il s'agira d'un accident à ce moment-là, d'une exception, et non plus d'une disposition profonde de mon cœur. C'est ça la différence. Et s'il m'arrive de pécher par accident, je pourrai le confesser à Dieu qui me pardonnera, parce qu'il l'a promis. 1 Jean chapitre 1, versets 8 et 9. « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. » Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Voilà. Lorsque nous sommes nés d'en haut, nous allons continuer à pécher. Mais ce n'est plus une disposition naturelle de mon cœur, c'est que je vais chuter de temps en temps. Mais le Saint-Esprit me le dit tout de suite et je le confesse à mon Père. Mais si je n'ai pas mal, c'est que le Saint-Esprit n'est pas là. Donc il y a un problème. Alors tu te dis peut-être que tu as déjà essayé de te détourner de tes péchés, et en vain, malgré toute la volonté et tous tes efforts. Et que tu as même renoncé peut-être à le faire parce que cela te paraît impossible de se détourner de ses péchés. Sache que tous nos efforts pour nous améliorer sans le secours de Dieu sont voués à l'échec. C'est pour cela que Jésus a dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Jean chapitre 5, chapitre 15, pardon, verset 5. C'est Dieu qui va nous aider. C'est celui qui nous a créés, qui seul peut nous changer. Lui seul peut le faire. C'est Dieu qui seul peut changer nos cœurs et c'est lui-même qui nous aide en fait à respecter sa loi. C'est lui qui nous aide. Avec nos efforts, ce n'est pas possible. Et il nous en fait la merveilleuse promesse que nous trouvons dans Ézéchiel chapitre 36, versets 26 et 27. J'aime beaucoup ce passage où il est dit, Dieu dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Il dit, c'est moi qui vous le donne. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Dieu dit que c'est moi qui le fais, à condition que vous me laissiez faire. Parce que vos efforts, ce n'est même pas la peine. C'est moi qui vais le faire. Donc la vraie repentance se manifeste par un profond désir de soumission totale à Dieu, à toute sa parole, et ceci en toutes circonstances. Donc l'absence de repentance, parfois, on ne trouve pas cette repentance chez beaucoup de personnes, malgré leur connaissance de la nécessité de le faire, enfin de passer par là, parce que certaines personnes ne sont pas disposées, simplement. Ils ont beau entendre le message, ils savent ce qu'il faut faire, mais il faut avoir une disposition de cœur, et il faut être prêt à se soumettre à Dieu. Ce n'est pas toujours facile de se soumettre. Et d'ailleurs, Jésus nous dit que cette démarche, elle est faite par peu de personnes. Et ce n'est pas étonnant. En fait, nous ne devrions pas nous étonner si on voit si peu de gens qui sont prêts à se soumettre à Dieu, à se repentir sincèrement. Dans Matthieu chapitre 7, versets 13 et 14, Jésus dit, vous connaissez ce passage, « Entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » Peu de personnes passent par ce chemin étroit. Ça fait que, quand cela arrive, c'est une explosion de joie dans le ciel. C'est pas quelque chose qui arrive si facilement. Luc chapitre 15, verset 10. Jésus dit, de même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. La repentance, c'est quelque chose de précieux et de rare. Et quand ça arrive, c'est l'explosion de joie dans le ciel. Donc, parce qu'il y a peu de gens qui passent par cette porte étroite. Peu de gens ont cette disposition de cœur de pouvoir de se soumettre à Dieu. Et nous sommes donc invités à passer par la porte étroite. Nous sommes invités à passer par ce chemin resserré par lesquels il y a peu de gens qui passent finalement. Afin de provoquer la joie dans le ciel. Non pas seulement pour provoquer la joie, mais surtout pour nous assurer une place au ciel. Il faut que nous passions par la porte. Et afin de recevoir dès maintenant cette naissance d'en haut, cette naissance de Dieu. Pour moi, le sujet est trop grave pour qu'on le prenne à la légère. Parce que c'est vraiment le cœur du message de l'Évangile, la repentance. Et donc, si quelqu'un parmi nous aujourd'hui n'a pas fait cette démarche, je l'invite dès maintenant. Prends une décision maintenant. Aujourd'hui. Parce que certains disent, je vais continuer à mener un peu ma vie, on verra. Non, non. La Bible dit, aujourd'hui, Hébreux chapitre 3, versets 7 et 8, c'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Et cette invitation, on la trouve trois fois sur la même page. Trois fois, la Bible dit dans Hébreux, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Donc, prends une décision maintenant. Aujourd'hui, n'attends pas demain. Soumettons-nous donc à Dieu, et ayons une repentance sincère pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait, pour recevoir la naissance d'en haut. Et donc ce pouvoir, afin de pouvoir accéder au ciel et vivre demain dans la présence de Dieu. Voilà le message que j'aimerais vous apporter ce matin. Bah, que Dieu éclaire chacun de nous, que chacun regarde dans son cœur où il en est, si chacun est sûr d'avoir ou non fait la démarche nécessaire de la repentance véritable, et afin que nous nous retrouvions tous demain dans la joie dans le ciel. Ce sera mieux. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Merci. Merci. Amen.